Sur Galère, 20h, 21h.
And des chaînes se déchaînent, une émission qui défonce tout. Où avocats, flics, sociologues, curetons, patrons, matons et autres démocrates n'ont pas la parole. Et surtout, ferment leur gueule.
Agir et rire de voir ce monde s'écrouler.
Je nourris des perspectives, nuances.
And des chaînes, 20h, 21h.
Des chaînes, une émission radioactive où affamés, émeutiers, enfermés, vandales, insoumis, rebelles, crient rêves et révoltes, rage, colère et haine de ce monde de merde.
Agir et rire de voir ce monde s'écrouler.
Ce soir, ce sera l'infanticide, tiré de l'émission genevoise De bruit et de fureur, que vous pouvez réécouter en allant sur internet et en tapant le nom de l'émission.
Voilà, donc on aborde un sujet autour d'un livre qui s'appelle « Réflexion autour d'un tabou, l'infanticide ».
C'est un ouvrage collectif.
Ce livre, il a été écrit par 8 femmes concernées, comme on peut toutes l'être. Mais notre équipe, nous, à nous, elle est pas de 8 femmes, elle est de 6 personnes en vitesse de croisière, et puis après ça monte, ça descend. Et puis on est des hommes et des femmes, alors du coup, nous on va en parler ensemble, mais on est toujours d'accord sur le fait que la non-mixité, c'est un truc super intéressant, parce que là, il a permis pour le coup de faire un sacré boulot, et nous on attrape ce boulot au vol, mais parce qu'on pense que ce boulot, il peut aller loin, quoi. Il est tout petit encore.
Eh ben, peut-être qu'on va on va entendre la présentation du livre. En fait, c'est un chapitre qui a été repris et relu, le chapitre qui justement présente l'intention du livre, qui est présenté par celles qui l'ont écrit.
Ce qui nous a rassemblés et qui nous rassemble, ce n'est pas le fait d'être mère ou pas, mais le fait d'être. Parce que femme dans cette société, toute traversée par les questions de maternité. Ce qui nous rassemble, c'est aussi que nous n'aimons pas ce monde tel qu'il est et que nous voulons agir contre toutes les dominations et les oppressions et donc, entre autres, contre le patriarcat. Au départ de notre envie de réfléchir collectivement, il y a l'histoire d'une femme jetée en prison pour infanticide. Cela nous touche et nous interroge, nous révolte aussi, quand la presse se déchaîne en présentant les femmes infanticides comme des monstres, ou mieux, comme des malades. Alors, nous cherchons des réponses. Et les seules que nous trouvons proviennent des psychiatres et des magistrats. Réponses partielles et insatisfaisantes. Explications d'experts qui décortiquent des cas. Parfois, avec bienveillance ou indulgence, mais toujours du haut de leur savoir et de leur position sociale. Or, nous sommes de celles qui pensent qu'il ne faut pas laisser aux spécialistes le monopole de la réflexion et de la parole sur les sujets qui nous concernent directement. Et nous voulons exprimer ici que l'infanticide fait partie de notre histoire à toutes et à tous. C'est cette position qui nous a amenés à rechercher des approches et des discours moins normatifs et nous a conduites à une rencontre décisive. Cette rencontre a déclenché notre envie de porter une parole publique exprimant notre solidarité et notre révolte contre le sort fait aux femmes qui vivent cette violence et cette solitude. Cette parole, nous l'avons construite avec des questions. Qu'est-ce qui contraint aujourd'hui les femmes à vivre un infanticide? Pourquoi est-ce aussi profondément réprouvé? Pourquoi y a-t-il encore des femmes en détresse face à une grossesse non prévue? Quelle est la place des hommes dans ces cas-là? Quels sont les bons et les mauvais moyens d'éviter une naissance? Qui y a accès? C'est quoi une bonne mère? C'est quoi une mauvaise mère? C'est quoi une mère? Qui décide? Et comment de ce qui est hors la loi et condamnable en matière de reproduction? Et bien d'autres questions encore qui sont apparues au cours de ce travail. Nous avons cherché un terme pour remplacer le mot infanticide, lourdement et juridiquement connoté. Un terme qui définirait mieux ce dont nous voulions parler. Le néologisme néonaticide nous a paru tout aussi lourd. Il y eut aussi avortement différé, avortement à 9 mois, des périphrases encore. Alors tant pis, on parlera d'infanticide dans ces textes, mais on tentera de redéfinir ce qu'on entend par là. Et surtout, on tentera de parler de la maternité autrement. En rappelant que vouloir ou ne pas vouloir d'enfant est une question non pas naturelle, mais sociale, et qu'il n'est pas plus biologique d'en avoir que de ne pas en avoir. Nous avons eu beaucoup de débats, de discussions, de confrontations. Nous avons connu beaucoup de doutes, nous en avons encore. Nous n'avons pas fait un travail d'enquête en partant à la chasse aux témoignages ou en épluchant les statistiques, d'ailleurs inexistantes sur ce sujet. Nous avons creusé certaines pistes, pas toutes, choisissant au gré de nos débats et de nos doutes ce qui nous questionnait et ce qui nous importait le plus. Nous n'avons ni la prétention d'être exhaustifs sur le sujet, ni même celle d'avoir épuisé les thèmes que nous avons abordés. Les textes qui suivent peuvent se lire de façon autonome, dans un ordre ou dans un autre. Nous avons voulu ici retranscrire nos réflexions, nos expériences communes et individuelles, dans le but de briser un tabou qui pèse lourdement dans l'histoire et la mémoire des femmes. Nous souhaitons créer les conditions pour que les femmes confrontées à des grossesses non désirées, contraintes à des infanticides, aient la possibilité de parler, d'être entendues, pour que leurs souffrances ne soient plus ignorées et qu'un débat soit porté sur la place publique. Nous sommes dans cette volonté de rendre visible l'invisible, et c'est en ce sens que nous nous inscrivons dans la continuité des luttes des femmes. Sortir du secret et du privé et rendre public ce qui fait notre oppression pour pouvoir nous en débarrasser. Et au cœur de cette oppression, il y a l'interdiction de choisir in fine de ne pas avoir les enfants dont nous ne voulons pas. Par cette réflexion, nous voulons questionner la société qui amène des femmes à pratiquer des infanticides. Nous voulons avoir une lecture sociale ou politique et non pas psy ou judiciaire. Notre parti pris est d'être contre la culpabilisation des femmes, contre la prison, contre notre déresponsabilisation. Nous ne sommes ni coupables, ni malades, ni victimes. Notre propos part de notre subjectivité. Il est partiel, mais nous l'espérons partageable avec les femmes et entendable par les hommes.
Point de départ, essai de décorsetage, c'était donc le deuxième chapitre lu par l'équipe de Debrouille et Fureur et tiré donc du livre « Réflexion autour d'un tabou, l'infanticide ».
Comme vous l'avez entendu, ce livre a été écrit par 8 femmes et 8 femmes avec lesquelles on partage beaucoup de la grille du choix d'analyse de la société. Elles ont décidé de faire ce livre en plusieurs chapitres pour faire une lecture du résultat qu'est l'acte d'accusation qu'est l'infanticide. Et donc, il y a d'abord un récit dans ce livre, un récit d'une femme qui raconte ses maternités à répétition et tout le quotidien qu'il y a autour et qui est assez lourd. Après, il y a le chapitre que je viens de vous lire qui explique pourquoi elles ont fait ce livre. Après, il y a une tentative de définition de l'infanticide et de proposition de termes différents, mais qui sont des périphrases dont elles ne sont pas forcément plus heureuses. Après, il y a une discussion autour du déni de grossesse qui serait comme... une sous-partie, si j'ose m'exprimer ainsi, de l'infanticide. Un enfant, c'est quoi ? Ça aussi, c'est un chapitre. Hein. Est-ce que c'est un enfant ? Est-ce que c'est un fœtus ? Est-ce que c'est un amas de cellules ? Le jugement médiatique est abordé pour montrer à quel point les médias, ils adorent ça. Après, les journalistes viennent la loterie pénale. C'est un peu du même acabit. Et puis, effectivement, vaut mieux avoir fait un déni de grossesse en Belgique qu'un infanticide en France, parce que là, pour le coup, on gagne plus d'années de prison en France en ce moment. Après, il y a un retour sur l'histoire et sur l'histoire des lois, parce que c'est ça aussi qui permet d'aborder plus en profondeur l'infanticide, de comprendre à quel moment c'est devenu l'infanticide, à quel moment c'était une façon de réguler les naissances. Après, il y a les femmes, les luttes des femmes. Donc, plus près de nous, il y avait l'IVG, quoi. Nos mères, elles ont lutté pour l'IVG. Nous, prochainement, on va lutter pour la conserver. Mais est-ce que l'infanticide, c'est pas un avortement comme un autre ? Ce livre pose aussi la question, est-ce que avorter à 9 mois, c'est pas un délai comme un autre ? Ce livre, il pose aussi cette question-là. Oui, parce que les délais, pourquoi les délais ? Parce que si c'est un fœtus qui n'est pas conforme à ce que la société attend d'un enfant, c'est-à-dire deux bras, deux jambes et une intelligence vive, s'il est moche, il y a la chirurgie esthétique, on pourra peut-être en faire quelque chose. Enfin, vive l'intelligence, mais pas trop non plus. Hein. Il faut quand même pouvoir se mettre dans le moule, hein, on est bien d'accord. Et puis l'abandon, écoutez, si vous n'avez rien à faire ce soir, pensez à l'abandon, quel bonheur. Et puis le fait, est-ce qu'on est mère seulement parce qu'on a un utérus ? Ben, bonne question, hein. Alors ensuite, conformer la sexualité, donc con, hein, vous voyez ce que je veux dire.
J'ai apprécié le jeu de mots.
Conformer la sexualité, ben, à la procréation, donc pour ça, je vous rappelle, si vous êtes oublié hier soir, vous n'avez plus de cerveau ce matin, donc pour conformer la sexualité, eh bien, il faut qu'il y ait pénétration, donc c'est un petit chapitre qui aborde aussi ça. Mère d'aujourd'hui, mère d'alors, on s'est rendu compte que c'est pas facile, hein. Le débat en fera part. Naître mère ou ne pas être, eh bien, ça c'est ma question. Je vous en parlerai.
Une question existentielle, une de plus.
Et puis féministe, une histoire de lutte, et c'est effectivement un chapitre qui fait que ce livre, c'est pas un gros traumatisme, de la tristesse et tout ça. Non, ce livre, c'est une porte ouverte, voilà. Et puis, une boutade, où sont les hommes?
À propos de Patrick Juvet, c'est ça?
Oui.
Où sont les hommes?
À propos de Patrick Juvet. Et conclusion, bah, la conclusion.
Conclusion qui n'est pas un jeu de mots cette fois.
Non.
Voilà. Donc, c'est vraiment la conclusion du livre. Alors voilà, la question que je me posais, que je te posais en off, c'était de savoir dans quel contexte était né, puisqu'on va beaucoup parler de fécondité, de natalité.
Ce bouquin, il est né comme la plupart en fait des discussions, par exemple, pas de bruit de fureur. On était dans un groupe non mixte de paroles où on parlait de notre quotidien, où on parlait de notre ressenti de femme entre femmes, et puis des fois c'était plus facile pour aborder certains sujets intimes, pas forcément du fait de l'affinité, non, justement parce que des fois le fait de moins connaître les gens, ça te permet d'avoir plusieurs voix sur un sujet. Et puis un jour on est arrivé là, et puis il y avait entre-temps justement les médias qui étaient passés là. Dans notre vie, dans notre quotidien, il y avait des énormes titres dans les journaux, et ces énormes titres, ils disaient qu'il y avait une femme qui avait tué son enfant et qu'elle était en prison. Elle était d'abord à l'hôpital psychiatrique quelques jours, et après elle était en prison. Et ce truc-là, il nous a interrogé, mais tellement, quoi, que on a dit, mais c'est pas possible, c'est quoi ce qui s'est passé là? Et puis est arrivé un témoignage qui décrivait ce que c'était le vécu personnel d'un déni de grossesse ou d'un infanticide. Et puis là, il fallait sûrement faire quelque chose parce que c'était juste une irruption d'une réalité qu'on n'avait jamais pris en compte dans nos vies personnelles, mais qui semblait tellement proche de nous et tellement possible à vivre, qu'on se disait, mais on ne peut pas laisser quelqu'un gérer ça tout seul, et que s'il y a elle, s'il y a moi, bah forcément il y a les autres. Et puis, voilà, moi je pense que ce livre, il est justement sûrement imparfait, mais il est vraiment fort parce qu'il a cherché dans plein de directions différentes et qu'il ne s'est pas cantonné à écouter un truc qui faisait « Ouah, alors là, je vous explique. » Alors, premièrement, il y a A, la femme, nanana. Deuxièmement, il y a B, puis le ventre ne grossit pas, l'utérus se met à l'envers et le bébé, il pousse comme un gros kiss de 3 kilos, parce que vous savez, il y en a des kiss de 3 kilos, hein, et puis on ne les voit pas. Alors, pourquoi on verrait pas un bébé? Donc, tout ça, mais alors vraiment, ça, c'est formidable, quoi. C'est la bonne chaussure, la bonne pointure. Et puis, non. Et puis là, du coup, tu laisses de côté la société. Tu laisses de côté le fait qu'être mère, c'est une galère. Le fait qu'être non-mère, c'est une galère. Tu laisses de côté le fait que la contraception, ha. Tu laisses de côté plein de trucs et t'es passé à côté du truc. Et t'as juste vu que tu pouvais excuser l'infanticide en disant que c'était une maladie psychiatrique. Donc, c'est pas le genre de truc qui nous satisfait ici et ailleurs.
Teresina la malcontenta, babbo gode, mamma stenta. Babbo va all'osteria, mamma tribola tuttavia. Babbo mangia le erbe cotte, mamma tribola giorno e notte. notte. Babbo mangia e beve vino, mamma tribola col cittino. Babbo mangia li fagioli, mamma tribola coi figlioli. Babbo mangia il baccalà, mamma tribola tutta andata. Babbo mangia le polpette, mamma fa delle crocette. Teresina la mare contenta, babbo gode, mamma stenta.
En fait, comme ce bouquin nous a intéressé, on s'est dit qu'on avait envie de le partager avec d'autres gens, de partager la lecture, quoi. Donc on a amené un débat il y a quelques jours.
Il y avait derrière ça, évidemment, tout un travail, entre guillemets, d'information et de recontextualisation de l'infanticide en 2010, en France, Belgique ou autre. Ce qu'on peut dire, c'est que de cette discussion, se sont un peu profilés plusieurs thèmes. Donc on a un peu tiré les extraits de cette discussion par thème. Donc le premier thème, le sujet numéro 1, comme on l'a appelé, ce serait plutôt être mère, quel enfer, être non-mère, quelle galère. Le sujet numéro 2, ça concerne plus la contraception, qui est un thème qui est souvent revenu lors de ces 2h30 de discussion. Le troisième sujet sera l'ambivalence, qui est un thème dont on n'a pas fini de parler on n'est jamais allé jusqu'au bout de ce thème. Bref.
Ben voilà, on va écouter un premier extrait de ce débat, mardi 23 mars, buvette des crepettes.
Voilà.
On insiste beaucoup sur le fait qu'il y a une pression à procréer, et c'est juste évident, quoi, il y a une survalorisation de la maternité, enfin une survalorisation, ou en tout cas une valorisation extrême de la maternité. Mais en même temps, il n'y a pas de politique sociale, enfin, réelle qui encourage à la maternité, et il n'y a pas non plus de climat propice à, je sais pas, à vivre ça dans la joie et collectivement. C'est très difficile, et du coup, c'est vrai que la maternité, ou la parentalité, mais disons au mieux la parentalité, au pire la maternité, c'est quelque chose qui se vit super seul. Alors ok, vous partez dans la réflexion sur l'infanticide. Moi, je viens d'avoir un enfant. Je trouve que les femmes qui témoignent, elles sont... Le premier témoignage, notamment, c'est vraiment une femme qui est super seule avec ça. Puis s'occuper d'un enfant seul, c'est chiant, quoi. Non, c'est dur, quoi. Même si on l'aime, même si c'est le sien, c'est très stimulant au début. Ça peut être chiant, quoi. Donc je trouve qu'il y a quand même vraiment une tension entre une pression à procréer, une pression à avoir des enfants, à être hyper, à tout leur sacrifier, à être hyper disponible pour eux, etc. Et puis en même temps, il y a quand même énormément de gens qui font des enfants parce qu'il faut, qui ne tiennent pas et puis qui ne sont pas encouragés à le faire. C'est aussi une pression que moi j'ai ressentie, en tout cas, lâche-le ton gamin, il faut retourner au boulot, il faut être disponible à d'autres choses, il faut sortir le soir, il faut boire des bières, etc. Enfin, il y a aussi toute une pression à ne pas être, vivre pleinement la parentalité, quoi. Donc je trouve qu'on est quand même vraiment sous une double pression à ce niveau-là. Je ne sais pas ce que, s'il y a d'autres choses qui le ressentent, mais...
Ah si, bien sûr, mais si, je pense qu'il y a des personnes qui le ressentent. Mais c'était pas forcément
le sujet de la
discussion. Le sujet, mais c'est... Après, moi, je trouve que ça se rejoint, parce que déjà, une détresse comme ça peut conduire à avoir envie de se débarrasser de son bon. Un jour où il gueule trop et que t'es toute seule. Ok. Et puis après aussi, je pense, de toute façon, c'est toujours... ce formatage de la femme qu'on attend, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Et effectivement, mais on est dans une société schizo de double injonction.
Plus on a la possibilité de choisir, plus la responsabilité qu'on a une fois qu'on a choisi, elle est énorme, quoi, et écrasante. Et du coup, ça devient vraiment... Aujourd'hui, ça devient aussi difficile d'avoir un enfant et d'assumer un enfant parce que on lui doit tout, quoi.
On vient d'entendre un premier extrait du débat autour du livre édité par l'ouvrage collectif « Réflexion autour d'un tabou, l'infanticide ». On a parlé beaucoup de choix, non, il me semble.
de choix. Donc, ce que nous disait la, la personne du sujet, elle nous décrivait une espèce de double pression qu'on a quand tellement on a eu le choix, en fait, sur sa maternité, qu'en fait, la maternité, ça se vit très seul. C'est extrêmement valorisé, mais ça se vit seul.
Là, dans, ce cas, dans, dans le cas de cette fille qu'on a entendue, ben, elle l'a désirée. Il est là, mais elle est mise sous pression. Et puis, c'est une pression sociale qui est quand même extrêmement forte.
Oui, et puis ça se relie aussi avec la pression qu'il y a sur le fait de ne pas être mère. Et donc, toutes ces choses-là, c'est, pour moi, c'est des mêmes facettes d'une image qu'on voudrait de la femme. Et c'est une image qui est complètement schizophrène. Et avec ça, la femme, elle doit faire une belle unité. Et c'est pas facile, voilà quoi. Je pense que c'est ça qu'elle disait aussi.
Ouais, moi je pense qu'il y a un monstre problème là, c'est tant. T'as une pression énorme, genre les femmes doivent être mères, c'est le rôle de la femme d'être mère. Donc de plus en plus, on attaque l'avortement avec l'initiative de merde ou n'importe quoi. Puis après, c'est vraiment à chaque fois qu'une femme avorte, moi j'ai l'impression aussi en l'ayant vécu, une interruption volontaire et une ITG, le traitement il est complètement différent. Genre, une fois, t'as voulu être mère, bon, ben, manque de bol, ça a raté, donc t'as tout. T'as les psychologues, t'as les médecins, t'as la sage-femme, t'as même l'aumônier qui vient, parce que c'est censé être un drame. Une ITG, en fait, c'est interruption thérapeutique de grossesse. Donc, c'est les médecins qui décident, ou c'est toi qui décides, parce que c'est une malformation, quoi. Donc, vu que c'est considéré comme un drame, eh ben, à un moment donné, il faut faire le deuil de ton enfant, qui est franchement encore à l'état de cellule, hein, on le redit. Ouais. Mais il faut faire le deuil. Donc, on te demande si tu veux voir l'aumônier, si tu veux voir si tu veux lui mettre un nom, enfin, un truc assez hallucinant, quoi. Tandis que, par contre, si tu fais une intervention volontaire de grossesse, en gros, on te l'a fait, c'est hyper vite fait, genre, bon, allez, maintenant, ciao. Tu reviens, à la limite, si t'as une hémorragie, puis si t'as très très mal, mais vraiment, si t'as très très mal, parce que franchement, c'est bon, là, on a déjà passé une heure avec toi, ça va aller. Donc le traitement, il est vraiment différent. C'est où t'as envie d'être mère, donc, mon Dieu, c'est un drame, ou t'as pas envie d'être mère, et là, franchement, bah, à la limite, c'est ton choix, puis t'avais que réfléchir un peu avant, quoi. Il y a vraiment une différence de traitement qui est assez énorme. T'as vraiment cette pression, genre, ben, pression de la société, il faut être mère, quoi.
Culpabilisation,
ouais,
hyper
culpabilisant, c'est clair,
de quoi. Celle qui veut avorter, quoi.
Contrairement aux hommes qui se trouveraient père parce que leur compagne est enceinte ou parce que l'enfant est né, le jour où il a plus envie de l'être, ben il se barre, il aura beaucoup moins de pression ou de culpabilisation de la part de l'entourage ou de la société. Il peut se barrer.
Pour faire la distinction entre ce qu'on appelle une IVG et une ITG. C'est bien lié à des histoires de délai ou je...
Ouais. C'est complètement une histoire de délai, en fait. Quand toi, tu décides que t'en veux pas, c'est un mal de cellule, c'est 12 semaines. Donc après, tu dépasses les délais et puis on sait aussi comment ça se passe. Il faut prendre des rancards, il faut blabla. C'est hyper vite facile de dépasser les délais de 12 semaines, quoi.
Donc nous sommes en Suisse et il y a un délai de 12 semaines pour pouvoir pratiquer l'IVG.
En France, c'est que c'est pareil. La plupart des pays, en fait, c'est 12 semaines. Alors, sur quoi tu te bases? Personnellement, moi, je ne le comprends pas. Et puis, alors, par exemple, en Espagne, c'est 4 mois et demi. Au Québec, eh ben, il n'y a pas de délai. Tu peux avorter quand tu veux. Et puis, ben, voilà. Après, pour moi, c'est vraiment un choix de la femme qui doit être hyper clair, dans le sens que ben, voilà, tu as envie d'avorter à 12 semaines ou à 26 semaines. Eh ben, c'est le choix d'une femme, quoi. Et ce n'est pas le choix des médecins, ce n'est pas le choix d'une société, ce n'est pas le choix de la justice, quoi.
Bah justement, bah on va entendre ce second extrait de ce débat qui continue à parler de ce dont tu nous parlais, Lolo.
Moi, je reviens au sujet d'avant, mais sur quand est-ce que c'est un être humain et tout, et ce que j'ai vachement aimé dans ce bouquin, c'est comment il y a un effort sur les mots, justement, pour définir autrement c'est l'état mat cellule, machin truc. Et bon, moi, je suis française et j'ai l'impression qu'ici, c'est pareil. Il y a une offensive anti-avortement énorme en ce moment. Enfin, ça fait un moment que ça dure, mais vraiment, ils arrivent à avoir du pouvoir. Et ils rebalancent toujours ce truc bébé qui est mort, quoi. Bébé, bébé. Et moi, je trouve ça vachement intéressant, ce combat-là aussi, sur, en fait, l'idée qu'on se fait des choses. Et si, dans les mots du quotidien, nous, on arrive à dire « amas de cellules » ou « je sais pas, du crâne, du crâne vert » quand même.
Qu'est-ce que c'est que ça?
N'importe quoi. Et si on arrive à dire ça... Et à le penser vraiment, et pas avoir de en fait, d'image où on dirait un amas de cellules, mais en fait on pense comme un bébé, qu'on arrive à travailler là-dessus. Je pense que c'est un beau combat aussi parce que c'est vachement ça qui sort. Enfin, j'ai l'impression d'une espèce d'imaginaire collectif, quoi. L'infanticide, il devient dur quand il y a une mère qui tue un bébé ou son enfant. Mais en réalité, c'est pas ça qui se passe. Donc en fait, c'est pas grave. Mais si c'est ça qu'on voit, donc les mots, c'est ceux-là, forcément, c'est la merde, quoi.
Pour moi, il y a un souci, c'est justement toujours, effectivement, de décider à la place de la femme. C'est vraiment toujours, c'est l'État qui pose des délais, alors que finalement... Le fœtus, jusqu'à 9 mois, on peut quand même avorter s'il y a un souci pour l'enfant, pour la mère. Donc ce truc éthique, moi je le vois pas. C'est vraiment de nouveau, on essaye de contraindre la femme à avoir un délai. Puis si tu le dépasses, t'es dans la merde. Après par exemple au Québec, mais en même temps au Québec par exemple, il n'y a pas de délai, quoi. Finalement je crois qu'en 20 ans, ils ont parlé de 5... Alors ils parlent de néonaticide. Et pas d'infanticide. Ouais. Donc il y en a 5 en espace de, je sais pas, je crois en 17 ans. Parce que l'avortement, il est légal jusqu'à 9 mois, quoi. Enfin, le truc éthique, pour moi, j'y vois pas. Pour moi, c'est encore de nouveau une histoire de décider à la place de la femme du choix de sa grossesse, quoi. Il y a quand même un truc qui va pas, et puis, nous, comment on se positionne ? Moi, je suis contre, effectivement, les histoires de délai, que ce soit l'État qui prenne à un moment donné en charge cette histoire. D'où vient ces histoires de 12 semaines, quoi ? C'est quoi cette histoire ?
Il y a peut-être un truc par rapport à la contraception. Parce qu'effectivement, moi, j'ai des copines, c'est le contraire. C'était des histoires à rebondissement, tu vois. La copine qui dit on baisse pas. Deux semaines après, elle te dit qu'elle est enceinte. Tu dis, t'es la sainte vierge ou quoi? Il y a aussi quand même des ratés de contraception vachement évidentes, quoi.
Bien sûr.
Donc, cette histoire de délai. Pourquoi ne pas imaginer de faire péter les délais et de ne plus avoir de délai pour pratiquer un IVG? C'est une idée qui a été soulevée lors de cette discussion.
Un monde sans délai. Et donc, nous sommes partis de ce débat beaucoup avec cette idée. Ah ouais, mais c'est vrai ça. Pas de délai, tiens.
Surtout que tu te dis, interruption thérapeutique de grossesse peut se faire jusqu'au 9e mois, genre un jour même avant le terme. Et là, par exemple, on parle plus de bébé. Hein, parce que c'est thérapeutique. Par contre, volontairement, une femme qui n'en veut pas, qui à un moment donné, c'est comme ça. Ça par contre, on lui refuse ce droit. Parce que tout d'un coup, là, ça devient vraiment un bébé. Alors que si c'est thérapeutique, on essaie quand même de faire passer ça comme un fœtus qui va pas. Moi, cette morale-là, j'ai vraiment du mal, quoi. Pour moi, vraiment, de nouveau, on se met en tant que juge sur la femme. Écoute, je suis désolée, au 8e mois... je trouve quand même que le bébé, il est un peu gros, tatati, tatata. Tu parles un peu avec les gens et les gens disent, c'est vrai, on pourrait limite augmenter le délai, mais jusqu'à quand? Alors que pour moi, cette question-là, en fait, elle n'a pas à se poser, quoi.
Il y a certaines femmes qui n'ont pas les symptômes immédiats de la grossesse, donc qui ont encore leurs règles, par exemple, ou qui sont dans une ambivalence et qui ne savent pas ce qu'elles vont faire et passer les 12 semaines, il faut se décider. Donc 12 semaines, ça passe très vite, hein, quand on attend ses règles et qu'on se dit on n'est pas enceinte, on espère toujours qu'on n'est pas enceinte si on n'a pas envie de l'être, ça passe extrêmement vite. Après, est-ce que pendant cette discussion, quand on parlait justement de l'explosion des délais, je me disais c'est un confort, mais ça facilitera pas forcément ce choix chez toutes les femmes.
Non, mais ça a le mérite de reposer des questions sur le statut de la femme, de la mère, de l'enfant, sur des questions qui sont toujours de l'ordre du tabou et puis de la morale et de l'ordre social. Ouais, on peut imaginer que ça, en tout cas, ça permet peut-être de résoudre autrement des questions que souvent, à travers les histoires judiciaires que vous connaissez certainement, mais le fait que ces nanas, elles se démerdent quasiment seules, que... ça finisse dans un congélateur ou par un abandon ou un accouchement sous X, qu'en tout cas, ça, c'est la résolution de cette question qui se pose cruellement et individuellement à une femme à un moment puisse se faire dans un autre cadre.
Mais en tous les cas, partir d'un constat en disant la contraception est dominée, c'est dénier complètement, pour le coup, toutes les femmes qui font un infanticide, toutes les femmes qui subissent le fait de devoir pratiquer cet acte et qui, s'il n'y avait pas de délai, pourrait peut-être partager ce truc et pas être à le partager en premier lieu avec des flics, quoi, même si c'est une femme la flic. C'est quand même hallucinant d'avoir jamais pu sortir un truc et de te trouver à le dire à une femme flic, quoi. Donc je pense qu'effectivement le fait que dans la loi il y ait ce délai, ça rajoute une pression, mais qui effectivement tutelle, avec ou sans loi, c'est évident que cette pression est là, parce que cette pression elle est bien en amont.
Au fond, si c'était qu'une question technique, ça voudrait dire qu'on est toujours clair sur les choix. C'est-à-dire que à tout moment on sait, on le veut pas, on veut continuer, on veut pas continuer, etc. Et puis en fait c'est un peu plus compliqué.
Et ben voilà, on va entendre un troisième extrait de débat peut-être, et puis on se retrouve un petit peu après.
Bon, c'est clairement un bouquin sur l'infanticide, et en même temps, je trouvais que, de façon assez synthétique, c'était vraiment un bon, une bonne synthèse de pourquoi il faut être féministe aujourd'hui. Et j'ai vachement aimé comment c'est amené, en fait, parce que ça m'a donné envie de l'offrir à des femmes pour les renseigner sur qu'est-ce que le féminisme et pourquoi. Et en espérant que la question de l'infanticide, là, ça soit un peu une espèce d'extrémité hyper radicale de ça, mais que si on capte tous les mécanismes qui sont décrits, je trouve, assez bien dans ce bouquin, qui font, en gros, l'oppression des femmes au quotidien, ben, tu peux pas lire pareil un infanticide, quoi. Et moi, ça, c'est, je trouve que c'est une porte que j'ai trouvée vraiment intéressante, et que je trouve presque dommage que là on n'arrive pas à sortir un peu vraiment de la question de l'infanticide. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces histoires de l'infanticide si c'est pas resituer dans un truc plus général, quoi. Ouais. Non, c'est des mots, tout ça.
Après, dans ce que toi tu t'avais dit, ouais, recentrer le débat plus généralement par rapport à l'infanticide, donc ça touche vachement d'autres thèmes, quoi, et je trouve qu'on en a abordé un qui me parle, et plus on discute de ça, plus je me dis, mais je me demande si ce serait pas ça la solution. C'est cette histoire de contraception et d'ambivalence, c'est-à-dire que on parle d'ambivalence, alors oui, on a tous les choix, on a les choix, enfin bon, bref, quoi, palette, mais on peut être encore ambivalent à passer 30 ans. On peut continuer à ne pas se protéger. Et même si on fait partie d'une génération, que j'ai envie de dire, une génération sida, où on nous a matraqué les oreilles parce que c'était la découverte du virus, eh ben, même si on fait partie de cette génération-là, on peut continuer de absolument pas prendre ses précautions. Donc je pense que là, on touche à un espèce de problème, quoi. Et je ne sais pas... Je ne sais pas quoi en dire plus, mais il me semble que là, il y a un gros nœud et que, voilà, je sais pas, c'est très parlant, quoi.
Il faut essayer quand même de faire un peu quelque chose avec cette ambivalence. C'est normal que l'ambivalence, elle existe en nous, parce que quelque part, sans vouloir vous offusquer, on essaye tous de procréer quelque part, au niveau animal. Les arbres aussi, ils essayent tous de un conifère, avant de mourir, il sort plein de pif parce qu'il se dit « Merde, il me reste plus que 5 heures, j'ai intérêt à manier, donc j'en fous plein là. » Donc, si on fait pas un brin avec son ambivalence, on comprend pas ses actes manqués, et puis il nous dépasse. Donc il faudrait essayer de faire quelque chose de plus amusant avec ses actes manqués, puis essayer d'en rigoler un peu, puis de dédramatiser, puis de dire bon, bah, on va essayer d'en faire quelque chose. Mais non, c'est normal qu'il y ait des ratés, il y en aura toujours, parce que c'est pas idéal la contraception. C'est chiant en plus. Ça a plein d'inconvénients, plein d'effets secondaires, plein de. Ceux qui n'ont pas d'effets secondaires, c'est chiant parce qu'il faut chaque fois faire quelque chose. Puis ceux qui ont, où il n'y a rien besoin de faire, ils ont plein d'effets secondaires. Donc c'est vrai que il y a plein de rater sur le chemin. Néanmoins, il faut quand même s'approprier cette contraception telle qu'elle est le plus qu'on peut, puis essayer d'en faire qu'elle nous donne une liberté et pas qu'elle nous limite, qu'elle nous coince, qu'elle nous empêche de vivre.
Pour revenir sur cet extrait qui parlait principalement, mais pas seulement, de l'ambivalence, eh ben, j'aimerais qu'on revienne sur ce terme-là et puis qu'on insiste un petit peu lourdement dessus, l'ambivalence. Parce qu'on est dans une époque où on l'avait déjà évoqué aussi sur un des premiers extraits qui était le choix. On nous ordonne d'être déterminés, d'être parce que nous sommes libres, eh ben nous pouvons jouir de cette liberté et décider en temps et en heure de ce qu'on veut dans la vie, c'est-à-dire acheter une voiture, savoir si on veut un enfant, savoir si on préfère le rose ou le bleu. Eh ben on a pu vérifier, en tout cas même partiellement ce soir, que c'est évidemment au minimum une contre-vérité, voire un mensonge. On s'en sort jamais très bien dans ces histoires-là.
L'ambivalence, elle peut s'arrêter, en tout cas au niveau féminin, avant l'acte sexuel, puisque la femme a le choix. A le choix d'une contraception. Donc, une grande palette entre les hormones, le stérilet, la pilule. Tout ça réunit, et donc si elle ne fait pas de choix de contraception, parce que c'est quand même assez difficile de faire un choix de contraception qui nous convienne, eh bien on peut la qualifier d'ambivalente.
Mm-hmm. Moi, ça me fait me poser une question: est-ce qu'il y aurait autant d'ambivalence si on savait que dans un monde ou dans une société, on élèverait ou on s'occuperait de nos mômes moins seuls? Parce que l'ambivalence, elle est aussi là parce qu'on sait que c'est un plaisir, c'est une joie d'avoir partagé de l'amour avec un gosse, mais c'est aussi un fardeau. Et parce que on est souvent seul face à ça, ou à deux, ou enfin les mères sont plus souvent.
Mais je pense que bien sûr le fait de t'imaginer pas seul dans cette histoire, ça peut évidemment te faciliter plein de choses dans le suivi d'une grossesse, dans l'acceptation d'une grossesse, puis le suivi de l'élévation de l'enfant. Mais évidemment, ça rejoint aussi plus il y a de communication, plus c'est confortable.
Voilà.
Dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que plus les gens parlent, plus tu peux te sentir bien avec ce que tu décides. Et donc, moins il y a de rejet, peut-être.
Un jour, une femme, j'ai entendu une femme qui disait qu'il faut tout un village pour s'occuper d'un môme.
C'était une image pour décrire une organisation sociale qui serait évidemment plus souhaitable que la nucléarisation absolue qu'on vit.
Tout à l'heure dans le débat, on entendait une qui disait mais c'est dur, c'est chiant, on lui doit tout, au môme. Donc ça veut dire qu'il y a plein de moments où on se nie nous-mêmes pour l'enfant. Tandis que si on imaginait qu'on était beaucoup plus nombreux pour s'occuper d'un enfant, le faire grandir, lui montrer des choses et tout ça, on se nierait certainement moins aussi.
J'ai l'impression qu'on est beaucoup, quand on parle de gamins, dans des trucs définitifs, tu vois, où c'est définitif que voilà, t'es un gamin, maintenant c'est pour 25 ans et tout, alors qu'on pourrait imaginer que, j'en sais rien, d'un coup pendant 5 ans c'est plus toi qui l'assumes totalement, mais c'est un peu plus léger, quoi.
On touche des belles idées d'élever ça plus en collectif ou avec des grandes familles et tout, mais pour l'instant les choses, elles se présentent pas comme ça dans le monde dans lequel on vit. Donc pour le créer, malgré tout ce qui nous entoure, eh ben il faut des sacrés coups de pied au cul et du courage et une organisation et du réseau et de la, enfin, etc. quoi. J'en passe.
Du coup, j'ai envie d'enchaîner avec l'autre côté, moi, de l'ambivalence, c'est-à-dire le fait d'être, ce que ça engendre, le fait d'être non-mère, et qui est aussi abordé dans ce livre, ce truc où effectivement, ne pas vivre la maternité comme un bonheur, ça c'est pour celles qui en ont, ou ne pas la vivre du tout, c'est toujours quelque chose qui nous fait, qui fait qu'on est classé, quoi. Et puis nous-mêmes, quand on est déprimé, on se dit bon Dieu, mais ne serais-je pas déprimée parce que je suis passée à côté de la maternité. La société, elle te renvoie ça en permanence. We'll be right back.
les questions qu'aborde ce livre, elles touchent effectivement à l'enfance, à la maternité. Est-ce qu'il faut obligatoirement aimer les enfants qu'on se retrouve à faire? Et ça nous a fait aussi penser à un film il y a une vingtaine d'années. Il y a un film que Claude Chabrol a fait.
Oui, il a fait une fiction qui s'appelle « Une affaire de femme ». Il a fait jouer Isabelle Huppert dans le rôle de la faiseuse d'ange. Donc, on peut lancer peut-être le premier extrait d'une affaire de femme ou...
T'es dans ton bain ? T'es là ? Qu'est-ce que tu fais là dans cette eau jaune ?
C'est de la moutarde.
Ça fait la peau douce, la moutarde ?
Non, c'est pas pour ça.
T'es enceinte ? C'est pas comme ça que tu vas t'en débarrasser de ton môme. Parvu de la moutarde.
Six en 7 ans de mariage. 6 fois 9 mois. Avoir le corps déformé. Et toujours un petit suspendu à mes seins, affamé. Me fait l'impression d'être une vache. Je me dégoûte. Si je disais la vérité, je les aime pas, mes enfants. Je les supporte. Mais je les ai jamais aimés. Même le premier. 16 heures qu'il a pris pour venir au monde, à me déchirer le ventre.
Ben en fait, Claude Chabrol s'est intéressé à l'histoire de Marie-Louise Giraud. C'est une femme qui a été guillotinée donc, le 30 juillet 1943, dans la fameuse cour de la prison de la Roquette, pour avoir pratiqué 27 avortements. Et ben on va peut-être écouter la seconde partie qui nous donnera encore une image un petit peu plus précise de cette période, un petit peu plus sombre que celle que nous connaissons en ce moment.
Monsieur le commissaire, je vous écris pour vous informer que Madame Latour, demeurant au 7 de la rue des Moines, a pratiqué depuis 2 ans plus d'une dizaine d'avortements sur des femmes dont les maris étaient en captivité ou qui avaient fauté avec l'occupant. Outre l'argent que lui rapporte cette activité, Madame Latour loue des chambres à des prostituées, bénéficiant ainsi du produit de leur passe.
Où est ta mère ?
À Paris.
Menteur, elle est en prison.
Non, elle est à Paris !
Mais on m'a dit que ce tribunal, c'était pour les communistes. Il y a peut-être une erreur.
C'est compliqué. Leur souci, c'est de faire un exemple.
Un exemple de quoi ? Un exemple de quoi ?
Si vous voulez, au départ, ce tribunal a été constitué pour juger des crimes contre l'État. Mais comment vous dire ? L'État, vu l'époque où nous vivons, la défaite, l'occupation, tout ça... est devenue très pointilleuse sur les questions de morale. En somme, tout ce qui porte atteinte à la morale est considéré comme portant atteinte à l'État.
Mon cher maître, vous êtes... un sentimental. Nous sommes un pays vaincu... qui doit se relever. La France doit retrouver de toute urgence sa morale. Et lorsqu'un pays a la gangrène, on ne sentimentalise pas. On sectionne le membre gangréné.
Sectionné.
On l'écarte.
Vous avez, comme vous dites, rendu service, entre parenthèses, un service que vous faisiez payer de plus en plus cher, un plus de 20, 23, selon le rapport que j'ai sous les yeux, 23 futurs maires de votre pays, de notre pays. Et notre pays se serait bien passé de ce genre de service. Et je lis également que dans le même temps, vous louiez des chambres de votre logement à des femmes légères, à des péripatéticiennes, disons-le, pour leur permettre d'exercer leur industrie. Ne voyez-vous pas là, dans cette attitude, un certain cynisme, hein? Un certain cynisme, une certaine abjection. Vu les articles 59, 60, 77 et 79 du Code pénal, la loi du 13 août 1941, 15 février 1942, décret loi du 29 juillet 1939, vu la loi du 7 septembre 1941, le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, déclare coupable l'accusé des faits qui lui sont reprochés et en répression condamne Marie-Jeanne Bayon, femme Latour, à la peine de mort. Dit que, conformément à l'article 12 du Code pénal, elle aura la tête tranchée. Garde, emmenez-la. L'audience est terminée.
Je vous salue, Marie. Pleine de merde. Le fruit de vos entrailles est pour